Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Le 17 octobre 2019, des manifestations éclataient au Liban en réaction à la hausse des prix, au fort taux de chômage, à la défaillance des services publics et à la corruption généralisée. Interrompues en raison de la crise du coronavirus, elles reprenaient après l'explosion du 4 août 2020 dans le port de Beyrouth. De nouvelles recherches publiées par Amnesty International révèlent le rôle qualifié de « honteux » par l'ONG que les équipements français de maintien de l'ordre auraient joué lors de la répression contre ces manifestations. Au moins un millier de personnes auraient été blessées du fait d'un usage illégal de la force par la police libanaise, des armes françaises à létalité réduite, dont des produits chimiques irritants comme les gaz lacrymogènes et des projectiles à impact cinétique comme des balles en caoutchouc, auraient été fréquemment employés, ce que décrit et dénonce Aymeric Éluin, responsable de plaidoyer armes à Amnesty France. En seconde partie d'émission, nous lirons comme chaque samedi la presse régionale, Israël et monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Aymeric Éluin.
Bonjour Éric Bataillon.
Responsable de plaidoyer armes à Amnesty International France. Selon votre organisation, de nouveaux éléments montreraient une utilisation illégale d'équipements français de maintien de l'ordre pour réprimer les manifestations populaires au Liban. Quels sont ces éléments ?
Alors en fait, on a eu à Amnesty International, dans notre mouvement, des équipes qui sont chargées de vérifier des contenus numériques disponibles en open source, c'est-à-dire disponibles dans l'espace public ouvert que représente Internet. Et donc ces équipes ont analysé plus d'une centaine de vidéos, 101 précisément, qui montrent comment les forces de sécurité libanaises, donc la police, ont déployé des équipements de maintien de l'ordre d'origine française durant tous ces longs mois de manifestations qui ont commencé à partir d'octobre 2019. Et dans ces vidéos, on voit clairement l'utilisation de divers types d'équipements français, hein, qu'il s'agit de lance-grenades, de grenades lacrymogènes, de balles caoutchouc, de lance-grenades montées sur des véhicules blindés. Et l'ensemble de ces matériels est utilisé de façon contraire au droit international. On constate un recours complètement inapproprié à la force avec des personnes qui sont ciblées avec des grenades lacrymogènes, ce qui ne doit jamais se faire, qui sont visées avec des balles caoutchouc, l'utilisation de grenades lacrymogènes en quantité excessive. On a des témoins qui nous parlent de feux d'artifice comme quand ils étaient enfants, un déluge comme si c'était des mitrailleuses qui lançaient des grenades lacrymogènes. Donc on a documenté tous ces éléments-là et nous sommes d'autant plus préoccupés que, à ce jour, aucun des responsables qui ont recouru de façon excessive à la force et ont entraîné des blessés n'ont été inquiétés par la justice libanaise.
Mais alors pour les manifestants, quelles ont été les conséquences de ces utilisations abusives ?
Les conséquences sont d'abord physiques. Hein. On a environ plus de 1000 personnes qui ont été blessées avec l'utilisation de ce recours excessif à la force, avec des blessures assez graves. Hein. Certains ont perdu un œil. D'autres ont dû recourir à la chirurgie réparatrice quand on s'est pris une balle en caoutchouc dans la lèvre et que la lèvre est complètement, passez-moi l'expression, explosée. Il n'y a plus qu'à recourir à la chirurgie réparatrice. Énormément de blessés au niveau des parties hautes du corps, ce qui signifie que les gens ont été visés intentionnellement, ont été visés pour qu'ils soient blessés. Le recours à la force dans le cadre du maintien de l'ordre ne vise pas à blesser, à infliger des souffrances aux personnes. Il vise normalement à disperser une manifestation. Alors là, on constate que les manifestations étaient pacifiques, mais pour y répondre, les forces de sécurité libanaises ont recouru à une force excessive qui entraînait donc des dommages corporels. Donc on a des gens qui ont été frappés à l'épaule en recevant des grenades lacrymogènes, au ventre, à la tête, il y en a un, il a eu le nez fracassé. Donc des tirs qui ne respectent pas les consignes de tir, c'est-à-dire qu'on ne tire pas en tir tendu avec des grenades lacrymogènes, on ne tire pas sur des personnes, on tire en cloche pour que ça tombe au milieu de la foule. Les balles en caoutchouc, clairement, ont été utilisées pour faire mal, pour blesser gravement. Il y a des gens qui ont été touchés à la tête, qui ont été touchés dans les parties hautes du corps, à la poitrine, au ventre, et causant des souffrances inimaginables.
Cela ressemble beaucoup aux répressions des manifestations en France contre les Gilets jaunes en 2018-2019. Est-ce les armes elles-mêmes qui sont en cause ou leurs utilisateurs ?
Alors oui, tout d'abord, effectivement, il y a un parallèle qui est flagrant avec ce qui s'est passé en France. C'est-à-dire, qu'il s'agisse de la France ou du Liban, on constate que les forces de sécurité, la police en l'occurrence, utilisent très mal ce recours à la force et ne respectent pas les règles élémentaires du droit international. Il y a deux choses. Il y a d'une part des armes qui sont dangereuses. Utiliser, par exemple, des lance-grenades, comme on l'a vu au Liban, multitubes, c'est-à-dire que vous avez 12 tubes accolés l'un à l'autre, montés sur un véhicule, et qui servent à tirer en une minute 12 grenades lacrymogènes. Quand on fait du maintien de l'ordre, c'est pas possible d'utiliser ce type de matériel. Quand on fait du maintien de l'ordre, normalement, on doit cibler l'action que l'on va lancer contre des manifestants. Là, vous ne pouvez que saturer l'air avec 12 grenades lancées en une minute. Il y a des gens qui sont retrouvés à vomir, et littéralement leurs intestins, parce que la quantité de gaz lacrymogène était beaucoup trop élevée. Les armes en elles-mêmes donc sont dangereuses, comme par exemple l'utilisation des lance-grenades. C'est pas pour rien d'ailleurs que ces équipements sont dénommés par les spécialistes armes à létalité réduite. C'est-à-dire qu'on cède le fait que ces armes sont potentiellement dangereuses au point d'entraîner la mort des individus qui peuvent être visés. Et puis il y a un problème de formation. Enfin, clairement, quoi, comme en France, les gens ne sont pas formés, les responsables de l'application des lois ne sont pas formés à l'utilisation de ces équipements. Ils ne sont pas formés à faire du maintien de l'ordre. Et tout cela est amplifié par le fait qu'il n'y a pas ensuite d'enquête et donc de poursuite et de sanctions. Donc c'est l'impunité, et l'impunité entraîne à commettre à nouveau des actes illégaux. Et clairement, il ne peut y avoir qu'un soutien à l'utilisation de cette force quand on voit comment a été utilisée la force. La force a été utilisée pour blesser, pour faire mal et pour briser finalement les gens, quoi.
Mais la France, n'ayant pas la main sur les services de sécurité au Liban, mais aussi dans d'autres pays, en Égypte ou autres, où la France exporte ses armes de maintien de l'ordre, qu'est-ce que la France peut faire finalement? Est-ce qu'il faut accompagner ces ventes de formation des personnels ou faire autrement?
C'est une très bonne question. Déjà, je crois que la première chose à faire, c'est d'introduire systématiquement, quand il ne s'agit pas de matériel de guerre, parce que tous les équipements que nous avons recensés au Liban ne sont pas forcément des matériels de guerre. Certains sont des matériels civils. Ils ne relèvent pas de la législation du contrôle d'exportation matérielle de guerre. Quand on parle d'exportation matérielle de guerre, comme le fameux lance-grenade multiple à 12 tubes, c'est du matériel de guerre. Donc là, la France doit appliquer le droit l'y oblige, les critères liés aux droits de l'homme. Elle doit évaluer si le transfert de ce type d'équipement emporte un risque lié à la façon dont les forces de sécurité vont l'utiliser. En termes de droits de l'homme, est-ce qu'il va y avoir un impact? Quand on parle de matériel civil, on regarde le droit français. Dans le droit français, à aucun moment, il est indiqué que les autorités exportatrices doivent prendre en compte le risque que le respect des droits de l'homme doit être pris en compte lorsqu'on autorise l'exportation de ce type d'équipement. Donc déjà, il faut encadrer de façon plus sérieuse ce type de transfert en imposant le fait que les autorités de contrôle doivent légalement prendre en compte le risque attaché aux droits de l'homme lorsqu'on exporte ce type d'équipement. Il faut que le Parlement, comme pour les matériels de guerre, réalise un contrôle. On constate que quand on parle de matériel de guerre, il y a opacité, mais l'opacité est encore plus grande pour les matériels de maintien de l'ordre, et notamment ceux qui sont civils et pas catalogués comme matériel de guerre, parce qu'on est sur des quantités, des petites choses, des balles caoutchouc, des grenades lacrymogènes, qui ne sont pas forcément, dans l'esprit français aujourd'hui, empreints d'un risque lorsqu'on les exporte. Alors que si, le risque il est là, et on l'a documenté. Je veux dire, en Égypte, on a documenté l'utilisation déjà d'équipements français à des fins de maintien de l'ordre totalement contraires au droit international. Donc il y a ça, il faut que la France, lorsqu'elle exporte ce type d'équipement, prennent en compte des garanties éventuelles en matière d'utilisation finale. Et ça veut dire qu'il faut que les forces de sécurité offrent la garantie qu'elles soient correctement formées, qu'il y ait des chaînes de responsabilité, que ce soit en termes disciplinaire et judiciaire au sein des forces de sécurité, c'est-à-dire qu'il doit y avoir la garantie que les responsables soient poursuivis. Il faut que les entreprises fournissent des formations à l'utilisation de leur matériel, c'est évident. Il n'est pas certain qu'aujourd'hui ça soit le cas. Donc en fait, lorsque l'on exporte ce type de bien, le principe de précaution devrait être appliqué de façon à ce qu'on puisse offrir la certitude que le matériel que l'on exporte ne va pas contribuer à la réalisation de violations graves des droits humains. On ne parle pas de petites violations. C'est-à-dire, quand on est face à un recours excessif à l'emploi de balles caoutchouc, cela peut s'apparenter à un acte de torture. Or, la France a l'obligation de tout mettre en œuvre pour que des actes de torture ne soient pas réalisés.
Et est-ce que le droit international est en capacité de réagir sur un tel dossier ?
Alors, avant de parler du droit international, qui est tout à fait préparé pour ça, je veux dire, il faut parler des États. Ceux qui ont la responsabilité de faire respecter le droit international qu'ils ont contribué à édicter, ce sont les premiers à avoir la responsabilité de la bonne mise en œuvre du droit international. Nous, ONG, on ne devrait pas avoir systématiquement à revenir sur le devant de la scène pour rappeler aux États le respect de leurs engagements internationaux. On ne devrait pas avoir systématiquement à revenir vers les entreprises pour les questionner sur leurs exportations et ensuite les sensibiliser éventuellement à l'obligation de former leurs clients, etc. quoi. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on exporte des armes en dépit de l'existence de règles de droit international. Et systématiquement, il faut venir rappeler qu'une règle de droit ne vit que parce que on l'invoque. Et si la France a une responsabilité vis-à-vis du Liban, comme l'a asséné à plusieurs reprises le président de la République, en termes de soutien, de solidarité, elle en a une aussi en termes de promotion du respect des droits humains. C'est à la France, au regard du droit qu'elle a souscrit, de s'engager à ce que le peuple libanais, lorsqu'il manifeste, ne risque pas sa vie pour aller manifester et ne risque pas de voir ses droits violés comme le droit de se réunir pacifiquement.
Merci Aymeric Helluin.
Merci Éric Bataillon.
Responsable de plaidoyer armes à Amnesty International France.
Orient Hebdo sur RFI. La chanteuse et rappeuse libanaise Malika avec ce morceau Ya Loubnan. Et notre rendez-vous du samedi avec la revue de presse régionale, nous retrouvons Michel Paul à Jérusalem. Bonjour Michel.
Bonjour.
Et Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Alexandre, la presse arabe, notamment celle du Golfe, concentre son attention sur l'Iran.
Oui, tout à fait. C'est l'opposition de l'Occident à un éventuel armement atomique iranien qui fait la une des journaux du Golfe qui estiment que leurs pays sont les premières cibles d'un chantage nucléaire de la part de Téhéran. Des pays où la communauté chiite, susceptible d'être travaillée par les ayatollahs, est importante et parfois même majoritaire. Mais les journaux arabes s'intéressent aussi aux capacités balistiques de l'Iran qui ne semblent pas intéresser les Occidentaux qui sont hors de portée des missiles de la République islamique. Une question qui a été soulevée par le prince héritier saoudien lors d'une rencontre avec le secrétaire américain à la Défense, selon les journaux. Des installations pétrolières saoudiennes ont été la cible de missiles balistiques et Riyad et Washington avaient accusé Téhéran qui avait démenti.
L'Iran, dont nous reparlerons dans l'émission de demain. Michel Paul, une affaire bien mystérieuse qui a retenu l'attention des médias en Israël cette semaine.
Oui, c'est effectivement une des affaires les plus étranges de ces dernières années. Eric, une jeune Israélienne ultra-orthodoxe
qui franchit la frontière syrienne pour rejoindre apparemment un Syrien dont elle est tombée amoureuse. Des négociations entre les deux pays, Israël et la Syrie, par l'intermédiaire de la Russie. Un premier échange qui n'a pas lieu car les deux prisonniers du côté israélien ne veulent pas être remis aux autorités syriennes. Finalement, Israël libère deux bergers syriens qui s'étaient égarés, des remises de peine aussi pour les autres prisonniers. La jeune femme est rapatriée. L'affaire tout entière a été placée sous blackout. Les commentateurs font remarquer que le premier ministre israélien, à un peu plus d'un mois des élections, veut montrer son efficacité grâce aux relations personnelles qu'il entretient avec le président Poutine. La question, bien sûr, est de savoir quel est le véritable prix qui a été payé.
Politique internationale, politique interne et les élections, un mélange détonnant a commencé, Michel, par le coup de fil de Joe Biden au Premier ministre israélien.
Benjamin Netanyahou, tout souriant au téléphone avec le nouveau chef de la Maison-Blanche. Eric, c'est l'image que l'on a voulu donner dans l'entourage du Premier ministre israélien après ce coup de fil tant attendu. Un entretien très cordial, souligne-t-on, mais la question que posent les commentateurs tourne autour du nucléaire iranien. Mariv estime que Netanyahou doit décider s'il veut coopérer avec l'administration Biden sur ce sujet délicat ou alors s'il désire, comme du temps du président Obama, reprendre une ligne plus agressive face aux États-Unis. Quoi qu'il en soit, la presse ici est unanime. Le dossier nucléaire sera au cœur de ce qui reste de la campagne électorale israélienne. Et puis, comme toujours en fin de semaine, des sondages. L'imbroglio reste inextricable, Eric. Toujours pas de coalition viable en vue au lendemain du 23 mars.
Alexandre, la détérioration des relations entre le Soudan et l'Éthiopie intéresse la presse arabe.
Oui, et surtout le fait que Khartoum vient de rappeler son ambassadeur d'Addis Abeba sur fond d'escalade, d'accrochage entre les armées soudanaises et éthiopiennes qui sont opposées par un différend frontalier. Selon les journaux, les responsables soudanais ont comparé l'occupation du parti du territoire soudanais à la colonisation israélienne en Cisjordanie. Le Soudan est soutenu par l'Égypte dans son différend avec l'Éthiopie. Le Caire et Khartoum sont par ailleurs alliés dans leur objection au remplissage du barrage éthiopien de la Renaissance sans accord préalable. Un barrage qui réduira la part des eaux du Nil parvenant au Soudan et à l'Égypte. Selon les journaux, le Soudan vient de recevoir le soutien direct de l'Arabie Saoudite qui peut faire pression sur l'Éthiopie par le biais de ses investissements agricoles.
Et du sport hippique, Alexandre, avec la course la plus primée au monde ce samedi soir en Arabie.
Oui, 20 millions de dollars, c'est la prime pour celui qui remporte la Saudi Cup. Et deux chevaux étaient favoris pour cette course de 1800 mètres, le saoudien Great Scott et le sud-coréen Next Joe. Une course qui va au-delà de l'exploit sportif et du gain matériel, estiment les analystes. Dans cette course, il y a aussi une dimension d'honneur national qui est engagée.
Oui, et c'est la deuxième édition de cette compétition. Michel, ce week-end, les Israéliens commencent à voir la vie en vert.
C'est donc ce dimanche, effectivement, que le confinement, le troisième du nom, prend officiellement fin avec un début de retour à la normale, réouverture des magasins, des salles de sport et des piscines, événements culturels, des lieux de culte et d'autres encore. Alors, bien sûr, tout cela est assorti d'un certain nombre de conditions, notamment dans certains cas, d'un certificat de vaccination ou de guérison du Covid-19, le fameux passeport vert, très contesté par les opposants au vaccin. Pour le quotidien Arets, il faut continuer sur cette voie, vacciner, mais sans porter atteinte à la vie privée. Même ton pour Yediot Aharonot, encourager sans forcer. La vaccination n'est pas une obligation, mais un droit dont on devrait se féliciter, explique le journal. Beaucoup de commentaires autour d'une loi sur la vaccination qui pourrait être adoptée pour limiter l'accès aux non-vaccinés. La prochaine étape, si tout va bien d'ici là, le 7 mars, avec la réouverture des restaurants et des cafés.
Et pour finir, de très belles images cette semaine, Michel.
Oui, ce sont les photos de la neige à Jérusalem et notamment des lieux saints, Al-Aqsa, le Saint-Sépulcre et aussi le mur des Lamentations, recouverts de leur parure blanche.
Oui, n'oubliez pas vos skis ou vos raquettes. Merci Michel, merci Alexandre. Orient Hebdo, une émission de RFI réalisée par Mathias Golchani. Retrouvez-nous en podcast avec notre application Pure Radio ou sur le site de la radio www.rfi.fr. Demain, nous reviendrons donc sur l'année 2020 en Iran avec la sociologue franco-iranienne Marnaz Shirali. À demain, prenez soin de vous.
Tout à l'heure sur RFI.
Pascal Lissouba et la guerre froide au Congo.
Archives d'Afrique.